Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Coup de projecteur ce matin sur l'hypochondrie, cette anxiété obsessionnelle à propos de sa santé, selon le Robert. Nous connaissons tous un hypochondriaque autour de nous. Et à la question « Êtes-vous hypochondriaque ?», nous serions certainement nombreux à répondre « Oui, un peu », alors que certains oseront répondre « À la folie passionnément ». Le silence des organes peut nous effrayer. Et si j'étais atteint d'une grave maladie sans le savoir, à contrario, une douleur suspecte peut nous faire imaginer le pire, et si j'étais frappé d'une maladie incurable? Alors qu'il existe une infinité d'hypochondriaques, un sondage IFOP de 2014 indiquait qu'il existait 8,5 millions d'hypochondriaques dans notre pays. Leur nombre a peut-être augmenté à mesure que le savoir sur la santé s'est démocratisé, que la consultation des sites de santé s'est généralisée et que la peur de tomber malade n'a jamais été aussi forte dans notre histoire récente. Nous verrons d'ailleurs dans quelle mesure la crise sanitaire a eu un impact sur notre hypochondrie. Nos experts vous proposeront des solutions qui vous aideront à soigner votre hypochondrie, qui n'est pas une maladie imaginaire. Vous pouvez nous appeler au 01 45 24 7000 ou en laissant une note vocale sur l'appli France Inter. Bonjour Marie-Laure Sunshine.
Bonjour Ali.
Chef du service Actu à Femmes Actuelles, hypochondriaque un peu, beaucoup, à la folie, pas du tout?
Ah, plutôt anxieuse. Hein.
D'accord. Bon, et dans vos questions?
Alors comme bien souvent, on va faire un petit tour en enfance pour chercher une explication. Allez voir.
Bonjour Eric Libio.
Bonjour Ali.
Sa seule angoisse dans la vie, ne pas avoir assez à manger dans son assiette. Surtout s'il s'agit de galettes bretonnes. Quel est le menu de vos choses vues vers 10h40?
Aujourd'hui, on va parler du billard et du nombril.
A tout à l'heure. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Je prenais la température de tout le monde. J'avais un pistolet, un thermomètre là. Et voilà, je devais changer de pile à peu près tous les 3 jours.
Dans la vraie vie, pas dans le film.
Non, dans la vraie vie, oui. Parce que je le fais dans le film, mais c'est par rapport à ce que j'ai fait dans la vie, oui.
C'est ça.
Non, je prenais la température de tout le monde tout le temps. Et au bout d'un moment, ça a énervé un peu mes proches. Donc j'ai enlevé le petit bip qu'il y avait sur le... J'ai réussi à trouver dans le menu. Du coup, je prenais de nuit quand les personnes dormaient. C'est vrai, en plus, c'est horrible. J'ai honte. Là, je le dis. Et en le disant, je me dis, mais j'ai honte.
Le comédien et réalisateur Danny Boone sur TF1 le 10 octobre 2021. Bonjour Antoine Spatt.
Bonjour Ali.
Vous êtes psychologue clinicien et vous publiez chez Larousse avec Caroline Michel. Tu crois que c'est grave, petit traité, à l'usage des hypochondriaques qui veulent s'en sortir. Il vous a fait rire hein, l'extrait. Hein. Ça vous rappelle certains patients peut-être?
Oui, c'est vrai. Bon, là, c'est quand même assez extrême. Mais effectivement, il y a des patients qui peuvent en arriver à ces extrémités-là, c'est-à-dire à mesurer constamment, à se suspecter leur propre de telle ou telle maladie, de tel ou tel virus, c'est le cas en ce moment. Là. Ça a augmenté considérablement le degré d'anxiété de beaucoup, beaucoup de gens. Et c'est vrai que oui, on peut retrouver des situations similaires. Oui.
Bonjour docteur Aurélia Schneider.
Bonjour Ali.
Médecin psychiatre en libéral et à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Vous êtes une spécialiste des TCC, les thérapies comportementales et cognitives. Alors, qu'est-ce que l'hypochondrie si on se réfère au DSM? Le DSM, c'est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux qui fait référence dans la psychiatrie mondiale. C'est quoi l'hypochondrie?
L'hypochondrie, alors il y a plusieurs versions du DSM. Mmh. Moi j'ai pris dans le livre la version 4, mmh, qui est l'avant-dernière donc, et qui me semblait être la plus exacte, si je puis dire, pour décrire les multiplicités de l'hypochondrie. Alors c'est d'abord une interprétation erronée d'une réalité somatique qui est répété dans le temps. C'est-à-dire, pour poser un diagnostic, en quelque sorte, d'hypochondrie, il faut au moins que les symptômes durent 6 mois. Ce qui n'est pas toujours le cas chez les anxieux, notamment, où les symptômes peuvent se taire assez rapidement. L'hypochondrie, il y a quand même une récurrence des symptômes qui persistent dans le temps, et une difficulté souvent à trouver une solution. C'est-à-dire qu'il faut toujours un diagnostic d'un médecin qui a poser un diagnostic de néant, justement, il n'y a pas de problématique somatique. Et c'est ce qui fait qu'on peut, à un moment donné ou à un autre, définir l'hypochondrie. C'est-à-dire, et il n'y a pas non plus de symptômes délirants, hein, parce que souvent, vous pouvez avoir des personnes qui ont une interprétation délirante des symptômes ou des manifestations somatiques. Et donc, quand on exclut tout ça, voilà, on peut définir l'hypochondrie.
Ce qui est étonnant, c'est que dans la dernière version de ce manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, le terme hypochondrie a disparu.
Il a disparu. Il est remplacé par une anxiété en quelque sorte généralisée. Alors bon, c'est l'hypochondrie, pourtant c'est un terme très ancien qui date de Galien, Hippocrate, c'est vieux comme le monde si je puis dire. Et oui, ça a disparu, c'est assez étrange. Alors, c'est remplacé évidemment par le mot anxiété, parce que pour l'anxiété, il y a des remèdes. Alors, on peut prescrire des remèdes. Pour l'hypochondrie, il n'y a pas de remède. Il n'y a pas de remède psychiatrique à proprement dit. Pour le moment, non, l'hypochondrie, il n'y a pas un médicament qui soigne l'hypochondrie. La dépression, oui. L'anxiété, oui. Mais pas l'hypochondrie.
Docteur Aurélia Schneider.
Oui, l'hypochondrie, ça fait plutôt trouble anxieux focalisé sur quelque chose, alors que l'anxiété est décrite comme généralisée, c'est-à-dire plein de choses nous inquiètent. Là, l'hypochondrie, c'est exclusivement la santé. Et j'ajoute à la définition aussi que c'est important de dire que le bilan somatique de ces patients est normal. C'est-à-dire qu'on va quand même explorer, et puis on va s'apercevoir que ce symptôme, il n'a pas d'appoint organique, et ses croyances excessives, là, cette crainte d'être atteint d'une maladie, eh bien, elle est pas du tout sous-tendue par la médecine.
Alors, selon les versions antérieures de ce fameux DSM, oui. Il y a plusieurs préoccupations qui occupent l'esprit de l'hypochondriaque. Une préoccupation centrée sur la crainte ou l'idée d'être atteint d'une maladie grave fondée sur l'interprétation erronée des symptômes physiques.
Oui, c'est ça, c'est la version 4
justement.
Du DSM. Oui, bah oui, c'est exactement.
Donc il y a cette préoccupation-là. Il y a aussi la préoccupation qui persiste malgré un bilan médical approprié et rassurant. Et puis une préoccupation à l'origine d'une souffrance cliniquement significative, une préoccupation qui altère tous les domaines de la vie. Docteur Aurélien Schneider.
Alors évidemment, la durée de ces symptômes compte pour le diagnostic. Et il faut se mettre à la place de ces patients, c'est-à-dire qu'ils sont persuadés d'être atteints d'une maladie grave, maladie mortelle de préférence, et ça dure longtemps. Et donc c'est épuisant d'être hypochondriaque. Épuisant, c'est tous les jours, on est dans l'antichambre de la mort. Donc c'est vraiment une maladie difficile à trimballer.
Les hypochondriaques, la seule maladie dont ils sont certains de ne pas avoir, c'est l'hypochondrie.
Expliquez-nous.
Bah, jamais ils vont croire que la réalité de ce qui est dit par le médecin soit vraie. Donc ils vont considérer toujours qu'ils sont atteints de quelque chose et que le médecin n'a pas eu les outils diagnostiques pour mettre en évidence sa pathologie. Donc il va toujours remettre en doute constamment le médecin. Il va entreprendre un espèce de nomadisme thérapeutique où il va aller chercher la meilleure interprétation, le meilleur examen, l'IRM le plus performant, la nouvelle machine d'IRM qui sera encore plus efficace. Et donc il y a comme ça une espèce d'engrenage, une espèce de quête incessante d'une vérité qu'il voudrait savoir sur son propre corps, qu'il n'arrive jamais à trouver. Et c'est cette impuissance à trouver cette réalité, cette vérité somatique, qui rend l'hypochondriaque douloureux pour lui-même, qui le rend anxieux aussi. Il n'arrive jamais à trouver une réponse, en quelque sorte. Ce qui n'est pas le cas de l'anxieux classique, si je puis dire, que tout le monde a connu plus ou moins dans sa vie, des périodes d'anxiété. On peut apaiser un anxieux d'une certaine manière assez facilement. Une parole peut apaiser un anxieux, ce qui n'est pas toujours le cas avec les hypochondriaques, parce qu'ils vont remettre en cause la parole du sachant.
Voilà. Docteur Schneider.
Oui, alors cette remise en cause, c'est bien classique. Il y a aussi un autre truc, c'est que les patients, on leur fait des bilans très perfectionnés, voilà, et ils arrivent à se dire, mais finalement, la maladie va commencer demain. On me l'a peut-être fait trop tôt, et il y a non seulement une remise en cause du bilan lui-même, mais il a peut-être été effectué trop tôt. Il y a une deuxième chose, c'est qu'il y a une forme d'hypochondrie qui ne consulte pas. Ils sont tellement terrorisés à l'idée qu'on leur annonce un drame, qu'ils ne consultent pas. J'ai une patiente comme ça, qui prend sa douche dans le noir, parce qu'elle a peur de voir sur sa peau des ombres qui traduiraient, qui a quelque part une tumeur, etc. Et elle ne consulte pas.
Alors l'hypochondrie, ce n'est pas ponctuel, ça doit durer au moins 6 mois, c'est ça?
C'est un critère, oui, qui est donné pour poser le diagnostic, en quelque sorte, d'hypochondrie, oui. Oui, parce que c'est à différencier justement des phénomènes anxieux qui peuvent être relativement brefs ou durer un mois, deux mois. Là, il y a une certaine installation de la plainte, parce que c'est constamment une plainte, qui est récurrente. Alors, le symptôme, enfin, ou le problème somatique peut varier, il peut changer. En règle générale, il reste focalisé effectivement sur un point particulier du corps, sur la crainte d'une maladie suspecte et létale. C'est-à-dire qu'il peut entraîner, évidemment, la mort. C'est ce qui est en toile de fond et derrière chaque crainte de l'hypochondriaque, c'est cette fameuse spectre de la mort qui rampe de manière sournoise et qui pourrait le posséder et l'anéantir.
Qu'est-ce que l'hypochondrie n'est pas ? Est-ce que l'hypochondrie, c'est la même chose que la psychosomatisation ? Dans la somatisation, le corps est réellement atteint.
Voilà, c'est un peu la distinction, effectivement. Quand on parle de psychosomatique, il y a une atteinte du corps somatique.
Par exemple, un grand choc émotionnel peut provoquer un psoriasis. À la base, il existe évidemment une véritable pathologie de la peau,
oui.
Mais ce choc-là, émotionnel, peut avoir un impact sur le psoriasis. Oui. C'est la somatisation.
Absolument, un ulcère à l'estomac, mais c'est multiple, hein. Les somatisations sont énormes. On peut somatiser dans beaucoup de situations. Mais paradoxalement, l'hypochondrie, c'est quand même un mécanisme de défense, parce que ça protège de la pathologie physique, somatique. Donc c'est une mise en place d'un système de défense psychique, si vous voulez, qui préserve d'une certaine manière la personne d'une atteinte somatique. C'est-à-dire, plus il va se plaindre, c'est comme si c'était un dernier rempart, si vous voulez, contre l'atteinte somatique. Ce qui n'est pas le cas, effectivement, des personnes qui ont des troubles psychosomatiques, qui, eux, peuvent être atteints vraiment gravement par des douleurs, des problèmes somatiques.
Oui, pardonnez-moi.
Pardon. Oui, il y a une plainte somatique chez l'hypochondriaque, mais à partir de quelque chose qu'ils ressentent, mais ils interprètent ce qu'ils ressentent.
Oui.
Ce sont des malades imaginaires. Leur souffrance est forcément sans cause réelle.
Cause réelle somatique, en règle générale, non. Mais par contre, il y a une
Mais ils souffrent, il y a une souffrance.
Il y a une vraie souffrance, oui. Il ne faut pas nier la souffrance morale de ces personnes. C'est même très grave, d'une certaine manière. Parce que c'est une altération de la vie sociale aussi, hein. Ça fait partie des critères du DSM-4, du fameux DSM-4. Il y a souvent une altération de la vie sociale, c'est-à-dire les personnes sont omnibulées par leur santé. Donc ils y pensent au moins 3 heures par jour. C'est un peu un critère, si vous voulez.
Docteur Schneider.
Oui, c'est vraiment très handicapant. Je crois que ils finissent par venir nous voir, enfin en tout cas moi, en tant que psychiatre, j'en reçois qui en fait sont très handicapés. Et c'est ça qui détermine de venir consulter, même si ce diagnostic ne leur fait pas plaisir, parce qu'ils sont persuadés d'être malades. Et aussi, comme le disait mon collègue tout à l'heure, il y a une migration des symptômes. C'est-à-dire que à peine ils sont rassurés sur le cancer de l'estomac, que le lendemain ou le surlendemain, dans la semaine qui suit, un autre cancer va prendre le relais sous forme d'une autre douleur interprétée. Moi, j'appelle ça un clou chasse l'autre. C'est vraiment en permanence. Mmh. Et donc, à un moment, le handicap est trop fort, quoi.
Marie-Laure Zonshine, de Femme Actuelle.
Oui, vous le dites à l'instant, Aurélia Schneider, c'est handicapant. Mais dans la vie de tous les jours, concrètement, est-ce que la personne hypochondriaque va fuir des situations, je ne sais pas, ne pas pratiquer tel sport, ne pas manger tel aliment, ne pas se rendre dans tel endroit? Est-ce que c'est bienvenu en terre connue? C'est-à-dire, il vit dans un espace qu'il maîtrise, dont il connaît tous les contours, pour ne pas se mettre en situation d'être confronté à un symptôme, une maladie, autre chose encore qui viendrait nourrir cette hypochondrie.
Oui, il y a des évitements. Il y a des évitements de situations. Moi, par exemple, j'ai toujours ma fameuse patiente là. Elle évite à certains moments de se promener dans la rue parce qu'elle a peur de voir des taches sur les ou des grains de beauté au printemps sur les bras ou sur les jambes des gens et de penser que ce sont des cancers. Enfin, tout ça est. Et c'est une patiente qui est à côté de ça. Dans une vie tout à fait, elle a des enfants, elle a son mari, alors elle vit un peu recluse, mais le reste de sa vie peut fonctionner.
Allez, dans un instant, des clés pour lutter contre son hypochondrie ou celle de son entourage. Il est 10h20 et je suis persuadé que vous l'aurez dans la tête toute la journée. J'ai la mémoire qui flanche, interprétée par Jeanne Moreau.
J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien Comme il était très musicien, il jouait beaucoup des mains. Tout entre nous a commencé par un très long baiser. Sur la veine bleutée du poignet, un long baiser sans fin. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Quel pouvait être son prénom et quel était son nom? Il s'appelait, je l'appelais, comment l'appelait-on? Pourtant c'est fou ce que j'aimais l'appeler par son nom. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. De quelle couleur étaient ses yeux? Je crois pas qu'ils étaient bleus. Était-il vert? Était-il gris? Était-il vert de gris? Ou changeait-il tout le temps de couleur pour un ou pour un oui? J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Habitait-il ce vieil hôtel bourré de musiciens? Pendant qu'il m'aime, pendant que je, pendant qu'on faisait la fête, tous ces saxos, ces clarinettes, ils me tournaient la tête. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Lequel de nous deux s'est lassé de l'autre le premier? Était-ce moi, était-ce lui, était-ce dans moi ou lui? Tout ce que je sais, c'est que depuis, je ne sais plus qui je suis. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Voilà qu'après toutes ces nuits blanches, il ne me reste plus rien. Rien qu'un petit air qui s'y flottait chaque jour en se rasant.
Jeanne Moreau, j'ai la mémoire qui flanche.
Vous ne devriez pas toucher ces revues des années 90, c'est infesté de microbes et de maladies de peau.
Grand bien vous fasse.
Pensez à tous ces malades quand on tournait les pages en faisant comme ça.
À lire EBI.
C'est pas nous qui attendons le docteur, c'est le docteur qui attend que toutes les maladies se propagent mieux entre tous ses patients.
Sur France Inter.
Ça vous fait rire hein, quand je trébuche, hein, Eric Libio hein, ça vous, hein.
Ben non, je suis quelqu'un de très bienveillant, Ali.
La joie mauvaise d'Eric Libio. Alors, comment soigner son hypochondrie? C'est notre thème ce matin. Toutes vos questions et vos témoignages au 01 45 24 7000. François nous demande s'il est hypochondriaque. Je le cite, je ressens des palpitations dans la poitrine. J'ai constamment l'impression que je vais avoir une crise cardiaque d'une minute à l'autre. J'ai pourtant fait des examens cardiologiques qui montrent que tout va bien. Suis-je normal? Docteur Schneider, psychiatre de son état.
Bah, écoutez, c'est surtout quelqu'un d'anxieux. Alors, je sais pas, je peux pas dire comme ça s'il est hypochondriaque, mais il semble très anxieux. Et étant, il semble, en tout cas, s'inquiéter beaucoup de sa fonction cardiaque, comme pas mal d'anxieux d'ailleurs.
Antoine Spath, vous êtes l'auteur de « Tu crois que c'est grave » et vous êtes psychologue clinicien.
Oui.
Alors, sur le témoignage de François.
Oh bah, il est manifestement anxieux. Alors, c'est toujours la grande question. Est-ce que ces symptômes durent un certain temps? Et s'il y a une permanence de la plainte somatique, oui, ça peut être un hypochondriaque. Mais en règle générale, c'est des troubles anxieux qui sont assez fréquents finalement. La peur que le cœur s'arrête, c'est toujours la traduction, pour moi, d'une inquiétude. Le symptôme est un langage métaphorique. Et il vient dire quelque chose que la parole n'arrive pas à exprimer. Quand quelqu'un a peur que son cœur s'arrête, que quelque chose pète dans le corps, que quelque chose lâche, que quelque chose se brise, c'est toujours la traduction d'un vécu psychologique qui est redouté ou qui est craint. Et c'est dans ce sens-là où ça peut amener une amorce thérapeutique pour les personnes qui souffrent de ce genre de symptômes. C'est toujours de se poser la question et de déplacer la plainte qu'ils ont sur leur corps dans leur vie, soit relationnelle, soit psychologique. En général, c'est toujours une des clés, c'est souvent une des clés, qui permet de comprendre la nature du symptôme. Le symptôme, il vient toujours dire quelque chose. Il faut décrypter. C'est un peu comme la pitié de Delphes. Il faut décrypter le langage. Et ce langage, il vient signifier quelque chose. Et c'est toujours intéressant de mettre en exergue la nature propre du symptôme, la manière dont il est décrit. Parce que souvent, les hypochondriaques, ils excellent dans la manière de décrire le symptôme. Ils vont avoir recours à un vocabulaire extrêmement précis, classiques, ils ont étudié toute la médecine de A à Z, ils connaissent même plus que le médecin, souvent, les vrais hypochondriacs, comme on dit. Ils ont un registre de connaissances médicales qui est assez impressionnant, et ils viennent souvent rivaliser avec le médecin. Mais ce qu'ils veulent entendre, c'est la nature réelle de leur plainte. Et c'est pas effectivement la réponse du médecin qui est souvent une réponse sur un symptôme.
Non, et c'est pour cela que, et je vous cite, que l'hypochondriaque multiplie les situations de recherche inquiète. Lorsqu'il a épuisé un sujet, il passe à un autre sujet qu'il n'a pas exploré.
Oui. Tant qu'on n'a pas répondu à la nature véritable de sa plainte, qu'est-ce qu'il vient dire chez son médecin? Qu'est-ce qu'il vient réclamer chez son médecin? Parce que souvent, ils ont une position un petit peu agressive, ils peuvent avoir cette attitude-là. On lui répond toujours, vous n'avez rien. Mais c'est extrêmement violent, d'une certaine manière.
Oui, docteur Schneider, c'est violent quand on vous dit « vous n'avez rien ».
Oui, bien sûr. Alors moi, je les vois dans un contexte spécial. Ils ont admis avoir ce diagnostic d'hypochondrie, donc c'est différent. Mais au-delà de l'aspect médical pur, vous n'avez rien sur le plan médical, c'est ce que vous vivez est un enfer. Je crois que c'est déjà la première chose qu'on peut faire, nous, en tant que spécialistes, c'est dire, non mais, de toute façon, rester comme ça, c'est trop compliqué de vivre, il faut qu'on trouve des solutions pour vous soulager.
Éric Libio.
Oui, docteur, vous parliez du vocabulaire très précis qu'ont certains patients qui viennent vous voir. Est-ce que depuis l'apparition d'Internet, où on peut aller chercher sur les sites le vocabulaire, vous avez noté une recrudescence de l'hypochondrie ou des hypochondriaques?
Pas forcément des hypochondriaques, mais des anxieux. Oui, alors il y a ce qu'on appelle maintenant la cyberchondrie. C'est-à-dire qu'effectivement, je crois que les sites médicaux sont les troisièmes les plus visités sur le net.
Ils sont pertinents ces sites ou il y a beaucoup de...
On va y revenir, mais juste, j'aimerais qu'on écoute Ilona qui a 19 ans, oui. C'était sur France 2 en 2020.
Il est à peu près 19h, j'ai des fourmis dans les mains. J'ai énormément mal à mon côté gauche de mon corps, je ne fais que le craquer. Ce qui fait que je peux pas m'empêcher d'aller regarder sur internet. Là, je vais marquer ce que j'ai. On va voir ce qu'il en sort et puis je vais voir ce que j'ai peut-être. Ok, du coup, sclérose en plaques. Tout de suite, celui-ci, je viens d'aller le voir. On voit bien que je suis déjà à la 4e page. Hein. Voilà, non mais je peux même pas rester sur la page. Je peux vraiment pas rester sur la page. Je sais que je dois même pas aller sur internet regarder, mais je peux pas m'en empêcher et je sais très bien que je vais stresser encore plus en allant regarder sur internet et c'est pas ce qu'il faut faire. Et le fait de stresser comme ça à regarder mes mains, c'est pas possible pour moi.
Un bel exemple de cyberchondrie.
C'est
hein,
ça. Alors la quête d'informations sur internet, elle est toujours un peu stérile. Pourquoi elle est stérile? Parce que ce que l'hypochondriaque, ou même l'anxieux d'ailleurs, cherche, c'est une véritable réassurance. Une information désincarnée, comme elle l'est souvent sur Internet, elle relaie pas la notion transférentielle qu'il peut y avoir avec un médecin. Il n'est pas rassuré. D'autant plus que les personnes ont tendance à aller voir les forums ou toutes ces choses-là. Là où les personnes se plaignent le plus et où ils n'ont pas trouvé de solution. Donc ils viennent souvent affolés. C'est vrai, avec une information assez précise de ce qu'ils ont éventuellement, ils viennent même vous dire « Docteur ou monsieur, j'ai ça ». Voilà, ils établissent eux-mêmes leur diagnostic. Ouais. Donc c'est assez étonnant. Mais c'est vrai aussi pour la médecine générale. Hein. C'est-à-dire que les personnes arrivent chez le médecin généraliste, ils disent « Voilà, docteur, j'ai ça, donnez-moi ça ». on a ce cas de figure. Oui.
Et nous accueillons le docteur Gérald Kierzek. Bonjour docteur.
Bonjour Ali.
Vous êtes urgentiste à l'Hôtel Dieu à Paris, directeur éditorial du site Doctissimo. Alors comment bien user des sites de santé comme le vôtre sans tomber dans l'hypochondrie?
Alors, vous l'avez dit, je suis directeur médical de Doctissimo, qui est un des sites leaders de santé. Quand vous tapez dans votre moteur de recherche préféré, vous avez de grandes chances de tomber devant chez nous. Il y a plus de 10 millions de visites par mois, ce qui veut dire que le sujet quand même intéresse. Alors, on entendait le mot de cyberchondrie, d'hypochondrie. C'est sûr que si vous tapez mot de tête cancer du cerveau, vous allez avoir un article sur les maux de tête et le cancer du cerveau. En revanche, quand vous tapez mot de tête, vous allez avoir des articles sur lesquels vous allez pouvoir avoir des informations valides guidé, on a un comité d'experts, de médecins qui sont des praticiens, c'est pas du tout des médecins uniquement des médecins qui répondent à des articles ou des médecins rédacteurs, ce sont des médecins qui ont un cabinet, qui sont à l'hôpital et qui connaissent donc ce problème de patients qui viennent nous voir angoissés, comme les patients viennent me voir aussi aux urgences, et qu'il faut rassurer. Et l'objectif de Doctissimo, c'est d'être un peu une boussole pour les aider à naviguer dans le système de santé et pour les aider à avoir une réponse. Alors, c'est pas une consultation, on est entre la consultation physique, finalement, avec votre médecin à l'hôpital, en cabinet, avec un psychologue ou avec des professionnels de santé, et finalement, la jungle des informations santé, souvent non validées, qu'on peut trouver par les moteurs de recherche. Et Doctissimo, justement, il est à l'intermédiaire, il fait le lien, il fait la boussole, il fait le point de repère, sans angoisser les gens, pour pouvoir les rassurer et les orienter, parce que l'objectif, bien sûr, c'est que ça ne remplacera jamais une consultation avec son médecin.
Et on peut citer également e-santé ou passeport santé. Aurélia Schneider, sur la consultation des sites internet pour se réassurer ou pas?
Oui, alors le problème, c'est pas tant des sites comme des sites boussoles pour s'orienter, ce sont les forums,
oui.
Ce sont les échanges entre les gens, et là, ils s'échangent des horreurs. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un dont le cousin ou le frère a eu un mal au crâne la veille et est mort le lendemain. Et donc, c'est terrifiant pour ces patients-là, effectivement. Et parfois, ils prennent pas le temps, justement, de se renseigner tranquillement. Ils sont dans l'urgence, et les forums font des catastrophes. Tout comme le Larousse médical à l'époque, hein. Il y a de ça 25 ans, on disait aux patients, surtout ne regardez pas le Larousse médical.
Et nous accueillons Grégory Cohen, bienvenue.
Bonjour Ami.
Chef bien-aimé le vendredi dans Grand Main vous face. Alors je vous connais bien et vous avez plutôt peur des maladies. Est-ce que vous consultez d'ailleurs tous ces sites, Passeport Santé, Doctissimo, le portail e-santé? Est-ce que vous êtes un adepte de tous ces sites?
Alors moi je suis hypochondriaque depuis très longtemps, mais je me soigne. J'ai depuis très longtemps le Vidal à côté de moi.
C'est vrai.
Ah bah oui. Au début, avant même Internet, j'avais le livre. Maintenant c'est fabuleux parce que avec Internet on peut sur le Vidal rentrer nos symptômes et puis on a les conseils directs des médecins. Donc je pense être hypochondriaque, mais un hypochondriaque peut-être un micro-hypochondriaque, parce que parfois j'ai des choses qui sont de moins de 6 mois, mais je suis par exemple une éponge émotionnelle. J'ai un ami qui il n'y a pas longtemps avait le Covid, on a passé un petit moment au téléphone ensemble, il me décrivait tous ses symptômes, et au fur et à mesure de la description des symptômes, je les avais, mais je les avais vraiment, au point de faire un test et de me dire, tiens, le test n'est pas clair, je dois l'avoir. Et puis de façon chronique, ça revient. Donc là, avec la Covid, c'est du pain béni, c'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir la Covid depuis toujours, j'en suis à mon 72 000e test.
Et Grégory, je crois savoir qui est cet ami.
Oui, c'était un peu vous quand même, hein, quand vous avez eu le Covid, hein, on peut le dire.
C'est vrai.
Et donc, mais en même temps, vous n'aviez pas envie d'être tout seul. Donc, par solidarité, peut-être que c'est une hypochondrie solidaire, on va dire. Je ne sais pas si ça existe.
Il me semble qu'en ayant discuté avec vous, que vous avez peur d'attraper une maladie en particulier, et je crois que ça s'appelle la nosophobie, c'est ça, Antoine Spatt?
Alors, la nosophobie, c'est vrai que c'est toujours une peur de la maladie, mais effectivement, une peur qui vient de l'extérieur, à différencier de l'hypochondriaque, qui a toujours la crainte que cette maladie soit déjà installée à l'intérieur. D'ailleurs, le nosophobe, on va dire l'appeler comme ça, il a peur que cette maladie circule autour de lui et puisse l'attraper, en quelque sorte. Alors que l'hypochondriaque, lui, il se sent déjà atteint par cette maladie. C'est un peu la distinction. Donc c'est plus le nosophobe, il est plus dans une dimension relationnelle. C'est-à-dire qu'il a une crainte qui est externe et qui peut l'atteindre. C'est un peu la distinction qu'on peut faire.
Docteur Schneider.
Oui, je voulais rebondir sur l'histoire du Vidal. Il y a un vrai problème aussi avec les hypochondriacs, c'est qu'on ne peut pas les soigner, parce qu'ils ont peur des effets secondaires des médicaments. Donc ils ont peur de tout.
Merci en tout cas, docteur Kirzek, d'être intervenu ce matin dans Grand Main vous fasse. Grégory Cohen, vous restez avec nous. J'aimerais savoir, docteur, enfin Antoine Spatt, j'aimerais savoir comment ça se soigne dans un premier temps. L'hypocondrie. Quel est le kit de survie pour soi et pour son entourage? On reviendra après précisément sur certaines thérapies, mais pour faire cesser peut-être cette angoisse permanente, quelle est pour vous la bonne attitude?
Bon, alors c'est vrai que le mot soigner me gêne toujours un petit peu, parce que justement, c'est pas une maladie. Ouais. Donc,
alors comment
est-ce qu'on alors comment on apaise, voilà, comment on donne raison en quelque sorte à ces personnes. Bah, c'est vrai que souvent l'hypocondriaque, il est dans un état d'hypervigilance, c'est-à-dire l'hypervigilance, c'est la traduction d'une forme d'anxiété. Donc il va développer cette hypervigilance sur toutes les parties de son corps, notamment celles qui dérangent, celles qui lui posent problème. Je sais pas, c'est comme dans Dr Knock, ça vous chatouille ou ça vous gratouille. Ils vont toujours voir quelque chose qui gratouille, comme l'exemple d'Aurélia avec sa patiente qui a un bouton ou quelque chose qui émerge. Ça va tout de suite être une source d'inquiétude. Donc il y a cette hypervigilance qui est permanente. Donc un des premiers éléments pour déjà rendre accessible à la parole un hypocondriaque, c'est de faire baisser cette hypervigilance, donc faire baisser cette anxiété. Donc toutes les techniques un peu corporelles, quand même, par exemple moi je fais de l'hypnose, mais toutes ces techniques-là de relaxation, de prise en compte comme ça du corps, c'est très important, parce que ça amène déjà une forme d'apaisement et ça permet à la personne hypocondriaque d'être accessible à la relation. Ce qui n'est pas toujours le cas lorsqu'il est obsédé par sa maladie, il n'est pas accessible à l'autre, parce qu'il est tellement focalisé sur sa maladie qu'il n'entend pas l'autre, vraiment.
Vous parliez de corps, Antoine Spatt, quel est le rapport au corps de l'hypocondriaque? Comment expliquer cet autocentrage sur son corps? Vous dites, vous écrivez que l'hypocondriaque est l'esclave de son corps sur lequel il aimerait régner.
Oui, ça je parodie là une phrase de Lacan. Oui, c'est. Bah oui, parce qu'il est esclave, il peut pas s'échapper de la pensée de son corps. Et donc il est esclave et il aimerait effectivement le gouverner en quelque sorte. Chose qu'on ne peut pas faire. On peut pas gouverner son corps puisque c'est quelque chose qui par essence est muet, le corps. On peut pas maîtriser son corps. Il voudrait maîtriser des phénomènes qui sont inconscients, qui sont des phénomènes physiologiques dont on n'a pas la possibilité de contrôler. C'est un peu ça qui le met toujours en déroute, l'hypocondriaque, parce qu'il cherche à contrôler quelque chose qui est incontrôlable, qui est immaîtrisable. Et c'est ce qui fait que il est toujours dans cette quête incessante et cette plainte répétée.
Écoutons Pauline qui nous a laissé une note vocale.
Salut, je m'appelle Pauline, j'ai 24 ans, je suis hypocondriaque. Et au-delà de la difficulté à vivre quotidiennement l'hypocondrie, je voulais souligner l'importance des proches et d'être bien entouré.
Antoine Spatt, sur les proches, l'importance des proches.
Oui, alors les proches, c'est vrai qu'il y a une attitude ambivalente souvent des proches. Dans un premier temps, l'hypocondriaque, il peut susciter l'empathie, il peut susciter la compréhension. Et il y a un moment où ça bascule. Ça bascule justement dans l'irritation. Les proches ne supportent plus cette plainte répétée, ce qui peut s'entendre, parce que c'est une manière de polluer aussi la relation à l'autre. Il faut quand même accepter ça. C'est pour ça qu'ils se mettent dans des situations socialement délicates, on va dire.
C'est pas votre cas, Grégory Cohen?
Bah, en fait, moi, si ça peut mettre dans des situations délicates. Moi, je me suis à un moment quand. Alors je me soigne un peu, moi je fais de la sophrologie, donc j'essaie de me contrôler et de faire les cases pour mettre ça dans une petite case et l'oublier. Mais à un moment, quand il y avait quelqu'un qui toussait ou qui éternuait à côté de moi, je reculais de 3 mètres et j'étais en apnée prolongée. Je ne serrais pas la main, je regardais les personnes de façon suspicieuse en me disant celui-là il doit avoir quelque chose et c'est sûr qu'il va me le refiler. Donc parfois en société, oui, c'est un peu compliqué.
Tiens, une auditrice nous écrit « Mariée à un hypocondriaque, je vis un enfer depuis la Covid. Est-ce que de votre point de vue, la crise sanitaire a contribué vraiment à une augmentation du nombre des hypocondriaques? Est-ce que la pandémie a révélé l'hypocondrie qui sommeillait peut-être chez nombre d'entre nous ?» Antoine Spatt.
le Covid a réveillé de manière massive l'anxiété. Mais l'hypocondrie, pas vraiment.
Ah, pourquoi?
Alors,
paradoxal.
Oui, notre hypocondriaque national, Michel Drucker, que tout le monde connaît, il citait, je ne sais plus dans quel magazine, hein, j'ai plus ça en tête, mais qu'il n'avait pas été beaucoup plus inquiété que ça par l'arrivée du Covid. Pourquoi? Parce qu'avec le Covid, on a donné des instructions hyper claires. Vous mettez un masque, vous vous lavez les mains 50 fois par jour, vous gardez vos distances, et ainsi de suite. Donc, il y avait des informations qui étaient extrêmement claires. Et ça, ils adorent ça, les hypochondriacs. Ils vont appliquer à la lettre les recommandations.
Docteur Schneider?
Oui, c'est exactement ça. Moi, j'ai constaté que ceux qui avaient été très durement impactés par le Covid, c'était les patients obsessionnels compulsifs. Mmh. Les laveurs, les tocs, comme on dit, de lavage. Alors là, c'était un enfer, vraiment. Mais d'une façon générale, l'hypochondriaque, il a son petit truc à lui. Hein. Il a son cancer, sa leucémie. Et donc, le Covid, j'ai envie de dire, bon, bah, c'était réglementé, bien cadré, donc c'est pas ça qui l'a effrayé le plus.
Allez, il est 10h41, il est l'heure de retrouver les choses presque vues d'Éric Libiot.
France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute?
Pour le bien de tous, heureusement qu'il n'est pas psychothérapeute. Éric Libiot.
Alors, quand on parle d'hypocondrie, on pense immédiatement au malade imaginaire hein, de Molière, et vous y faites régulièrement allusion dans votre livre, Antoine Spath, il est effectivement possible d'arguer Cargan, le héros de cette pièce, est l'exemple type de celui qui se gorge de mots et se rengorge de mots, ou bien le contraire, hein, suivant l'orthographe adoptée. Molière, lui, est un auteur chez qui les mots sont importants, qu'ils soient en prose ou en vers et contre tous, mais surtout contre le pouvoir, les puissants, les sots et les fats. L'ami Molière adorait les fats qu'il se mettait à dos et en musique, vous pouvez le vérifier, c'est ainsi dans toute la gamme de ses pièces. Le mot, qu'on le sache, est un être vivant, écrit Victor Hugo dans les Contemplations que vous citez également, docteur Antoine Spath, et il faut effectivement chercher les mots à la racine sans bailler aux corneilles et savoir s'en amuser. Est-ce vraiment un hasard d'ailleurs si Molière savait jouer de ces mots qui s'accrochent comme du lierre aux murs et aux humeurs? Mais s'il faut mettre des mots sur les mots pour ne pas ajouter au malheur du corps, il faudrait peut-être, avant de soigner, mettre l'accent sur la prévention, en l'occurrence l'accent aigu. Prévenir, c'est jouer avec les mots, c'est garder le cerveau en alerte, c'est rester éveillé pour ne pas être dupe de ce qu'on nous raconte. Prévenir, c'est un travail quotidien et de tous les jours, c'est être là quand il faut, comme dirait le psychanalyste Jacques Lacan. Et ce qui m'agace parfois, si je peux être agacé, Ali, aujourd'hui, c'est d'entendre que jouer avec les mots, c'est rigolo, c'est distrayant, mais bon, ça va 5 minutes, c'est bien de rire un peu, mais il faut passer à autre chose et être sérieux. Eh bien non, ce qui est sérieux n'est pas forcément intelligent et ce qui est drôle n'est pas forcément futile. Le jeu de mots est indispensable, futile tiré par les cheveux, au point qu'on épeigne à le comprendre. Alors il y a parfois de grands, on les connaît, des grands joueurs de mots, Raymond Devos, Pierre Dac, Alphonse Allais, Roland Dubillard, Bernard Allaire. Et il faut leur rendre hommage, car ils ne sont plus vraiment à la mode, malheureusement, sans doute parce qu'ils n'ont pas la rate qui se dilate, ni le foie qui est pas droit, ni les orteils pas pareils. Ce qui est parfois la maladie des humoristes d'aujourd'hui. Je cite ici Gaston Ouvrard, en exergue de votre livre, je vous fais plein de pubs aujourd'hui en train de battre. Éternel interprète de « Je ne suis pas bien portant », chanson symbole de l'hypocondrie. Les joueurs de mots, eux, ont plus souvent le nombril inutile et ils jouent des paradoxes, de l'absurde et du non-sens. Il n'est pas question de physique mais de métaphysique, voyez comme c'est sérieux. Alors oui, c'est difficile de donner une définition de l'absurde et du non-sens, sans tourner en rond, et personnellement, celle que je préfère vient d'un proverbe zen. Si vous avez un bâton, je vous en donnerai un. Si vous n'en avez pas, je vous le prendrai. Ainsi, ma contribution à la campagne présidentielle est de proposer de la maternelle à la terminale des cours de langue, d'humour, d'aphorismes, de non-sens, de calembours et de jeux d'esprit. Un pays qui perd sa langue perd sa culture, disait le philosophe Michel Serres, et pour ne pas la perdre, il faut la faire vivre et en jouer, faire corps avec elle et la mêler à d'autres corps. La langue française, et c'est sa richesse, vient d'ici et de là, du nord au sud, et il faut se méfier des diafoirus de la politique qui disent le contraire. Ce sont les mêmes qui disent que tout va mal pour asseoir leur pouvoir, comme les médecins chez Molière.
Les choses presque vues d'Éric Libiot à podcaster et à partager sur l'appli France Inter. On continue à explorer d'autres pistes thérapeutiques pour lutter contre l'hypocondrie. Ce sera juste après Hills qui interprète Strawberry and Popcorn. Interpréter Strawberry and Popcorn. Comment soigner son hypocondrie, c'est notre thème ce matin. Toutes vos questions et vos témoignages au 01 45 24 7000. Écoutons le comédien Jacques Weber dans l'émission Ligne de mire en 1996 sur FR3.
Alors j'ai entendu quand même des mots hypocondriaque. J'ai tellement peur de la maladie.
Ah mais moi c'est absolument épouvantable. Mais j'adore les médecins. Mais je pense qu'il y a deux sortes d'hypocondriaques. Il y a ceux qui vont jamais chez le toubib parce qu'ils ont peur du toubib, et ceux qui vont toujours parce qu'ils ont peur de la maladie. Mais ça revient au même. C'est toujours une façon d'exprimer une peur, quoi. Mais c'est vrai que moi je suis fourré tout. D'ailleurs les premiers cartons d'invitation que j'envoie à mes premières sont à mes toubibs, et je les adore en plus, que je trouve que bon, la plupart du temps, ils font magnifiquement leur boulot, parce que de m'entendre pendant des heures à répéter mes angoisses, il faut être très courageux.
Extrait de Ligne de mire sur France 3. Tiens, Morissette nous demande, l'hypocondriaque n'est-il pas excessivement centré sur lui, docteur Aurélia Schneider?
Ah bah, il est centré sur son corps, ouais. Ce que Antoine disait tout à l'heure. C'est-à-dire, il y a une volonté de maîtrise, de contrôle sur quelque chose qu'on contrôle pas bien, effectivement. Mmh. En plus, toutes nos cellules, il y en a qui vont pas toujours bien, et puis elles sont normalement, dans le meilleur des cas, mangées par celles qui vont bien. Donc, on a toujours une crainte tapie. Donc oui, on est centré sur ce qui se passe à l'intérieur de soi, bien sûr.
Laurence nous écrit, depuis que mon mari est décédé d'un cancer en 3 mois et demi, j'ai développé un stress post-traumatique et j'ai constamment peur qu'il m'arrive une maladie grave. C'est très handicapant pour moi et j'aimerais savoir comment m'en débarrasser.
Oui, alors effectivement, parfois, dans les origines de l'hypocondrie, on trouve chez des proches ou même des célébrités des maladies qui les ont emportées très rapidement. Et ça, c'est sûr que ça fait partie des facteurs déclenchants parfois. Il y a parfois des hypocondries qui sont là depuis bien plus longtemps, installées, on ne sait pas trop comment. Mais souvent, un proche malade, même quand on est petit, quand on est jeune, le parent d'un copain qui meurt comme ça en quelques semaines, c'est un traumatisme et ça se poursuit tout au long de la vie.
Antoine Spatz, c'est vrai que, vous le rappelez dans votre livre, l'hypocondrie peut se révéler donc après un épisode traumatique, un événement douloureux comme le décès d'un proche, la vue d'un proche gravement malade, ouais. Ou soi-même d'être passé près de la mort.
Oui, c'est toujours la confrontation à l'impuissance devant la déchéance ou la mort. C'est-à-dire, quand on est confronté à quelqu'un qui est victime d'une grave maladie et qui n'en réchappe pas, il y a une dimension traumatique. C'est-à-dire, c'est la dimension surtout d'impuissance qui éveille le traumatisme, et qui, un traumatisme, bah, il peut persister très longtemps. Donc c'est quand on est confronté à quelque chose dont on est incapable de réagir. Il y a une espèce de sidération face à la déchéance de quelqu'un qui meurt. Si en plus il y a des souffrances, ça peut être effectivement marquer profondément l'empreinte psychique d'un hypochondriaque, et révéler, comme le dit Aurélien, l'hypochondrie qui peut à des moments-là démarrer assez tardivement dans la vie d'un individu.
Marie-Laure Zonchen, de Femmes Actuelles.
Oui, sur l'origine de l'hypochondrie, il y a un passage que je trouve passionnant dans votre ouvrage, Antoine Spatz, c'est ce que vous appelez le corps imaginaire, celui qui apparaît à l'enfant dans le miroir, surtout dans le regard de sa mère, et le lien entre la présence excessive ou l'absence de ce regard et le fait que cet enfant devenu adulte devienne hypochondriaque.
Oui, il n'y a pas de fatalité, si je puis dire, dans l'hypochondrie, il y a une histoire. Et c'est vrai que cette histoire, elle se construit en règle générale dans la prime enfance. Elle se construit par rapport au regard de la mère, aux paroles de la mère. On parlait tout à l'heure des paroles, de ce qui a été contenant chez la mère ou son substitut, parce qu'on dit toujours la mère. Non, j'ai rien contre les mères, mais c'est la personne qui tout au moins s'occupe de l'enfant, comment la manière dont elle prend soin de l'enfant. Alors je cite Winnicott, qui est un psychanalyste Donald Winnicott, qui est un psychanalyste anglais, bon, qui a pris la relève, si je puis dire, des théories pulsionnelles de Freud, et donc qui apporte une dimension beaucoup plus relationnelle à la construction de la vie psychique de l'enfant. Donc il met en avant trois arguments qui appellent le holding, le handling et la presenting object, c'est-à-dire la présence de l'objet, la présence de la mère. Donc ces trois composantes-là sont essentielles dans la construction de la vie psychique. Quand il y a des défaillances dans ces trois fonctionnements-là, ça peut faire naître au sein du corps, parce que l'enfant, dans ses premiers instants, il ne vit les choses qu'à travers le corps. Il n'a pas la parole. Et donc, la personne qui peut lui nommer les sensations qu'il éprouve dans son corps, c'est en règle générale la personne qui s'occupe de lui, de préférence la mère. Donc, quand elle va... souvent, on voit des mères un petit peu qui disent « Oh, mon petit, il a fait un petit rot, il a peut-être mal au ventre, il a peut-être fait ci. » C'est cet accompagnement-là qui est très important, parce que ça permet d'identifier à l'enfant d'abord une attention de la mère qui se porte sur le corps de l'enfant et qui vient donner une contenance pour la vie psychique future de l'enfant.
De la mère ou du père, on précise. Ouais. Docteur Aurélien Schneider, que conseillez-vous à vos patients qui souffrent d'hypochondrie? On va répondre à Laurence, qui aimerait se débarrasser de cette hypochondrie récente. Quel est le protocole de soins? Qu'est-ce que vous proposez à vos patients qui viennent vous voir pour cela?
Alors en TCC, en thérapie comportementale et cognitive, on est quand même moins dans l'explication. Il y a quelque chose que j'aime bien leur proposer, c'est leur demander d'écrire sur une grille que j'ai établie, une grille très simple, tous les symptômes qu'ils ont eus depuis aussi loin qu'ils s'en souviennent. Donc ça peut remonter à l'âge de 8 ans, 10 ans, 15 ans, et d'écrire à chaque fois quel a été le symptôme et la pensée. Et se rendre compte, ça au terme de 2-3 séances, on arrive à avoir un tableau assez complet, qu'en fait, ils en sont à leur 20e cancer, leur 18e embolie pulmonaire ou accident vasculaire cérébral, et que quand même, ils se sont bien pourris la vie avec leur mort. Ça, c'est vraiment une expression que j'aime bien utiliser. Et puis aussi, les prendre un peu à contre-pied, de façon très empathique, parce que j'ai beaucoup d'empathie pour ces patients vraiment attachants dans leur souffrance. Il y a une phrase que j'aime beaucoup de Fontenelle qui dit: ne prenez pas la vie au sérieux, vous n'en sortirez pas vivant. Et c'est des petites cartes qui sont éditées, dans des petites cartes qui sont assez mignonnes, et j'en ai un stock. Et tous mes hypochondriaques ont droit à la petite carte, parce qu'il y a un moment où il va falloir vivre. Et c'est vrai que quand ils arrivent nous voir, c'est qu'ils sont vraiment, vraiment au bout, quoi. Il n'y a plus d'espace. Et à ce moment-là, on peut travailler sur l'ancienneté, réaliser à quel point on a été tellement malade, on a cru qu'on a été tellement malade et qu'en fait, ça n'était pas vrai. Tout ça est un premier travail, une première amorce à changer de vision par rapport à sa pathologie. Mais ensuite, on prend des risques. On va, une fois que les examens physiques, biologiques ont été effectués, on va prendre le risque de vivre. On va prendre le risque, peut-être, de s'exposer alors qu'on ne s'exposait plus. D'une façon générale, puisque le traitement de l'anxiété et de la phobie, hein, c'est l'exposition très progressive, c'est finalement peut-être attendre quelques jours avant de prendre le rendez-vous chez le médecin pour montrer immédiatement ce grain de beauté qui nous inquiète.
Et vous, Antoine Spath, qu'est-ce que vous proposez? Vous avez donné quelques pistes tout à l'heure pour accompagner vos patients hypochondriaques.
Bah, moi, je commence toujours par, comme je le disais tout à l'heure, par faire baisser l'hypervigilance dont ils font preuve, surtout quand ils arrivent en consultation chez un psychologue, c'est qu'ils arrivent à une forme d'extrémité de souffrance. Et donc, pour qu'il soit accessible à une parole, il faut déjà faire baisser ce seuil d'anxiété. Une fois que ce seuil d'anxiété est abaissé, moi j'essaie quand même d'élaborer quand même autour de la nature de leurs symptômes. C'est un peu ma manière de fonctionner.
Par exemple ?
Bah, quand quelqu'un se plaint de son cœur qui s'arrête ou de son rein qui dysfonctionne, le rein c'est l'élimination. C'est dans le corps, il a une fonction. Et cette fonction, elle est de nature à éveiller une inquiétude. Donc, le corps, il vient toujours dire quelque chose de la difficulté psychologique. C'est bien pour ça qu'ils sont hypochondriaques ou qu'ils ont ces problèmes. C'est qu'ils n'arrivent pas à définir ou à décrire leurs difficultés psychologiques. Et donc le rein, il vient exprimer à travers sa nature fonctionnelle, si je puis dire, cette douleur psychologique. Et donc c'est le travail de reconstruction, en quelque sorte, de cette douleur. Pourquoi est-ce qu'elle signifie? À quoi elle renvoie dans la vie quand même de l'individu? Parce que on n'arrive à pas éliminer, par exemple, une souffrance qu'on a vécue, une relation qui a été insatisfaisante, mille et une choses qui peuvent se traduire par ce symptôme métaphorique, cette métaphore du symptôme. Voilà.
Grégory Cohen, notre grand témoin hypochondriaque devant l'Éternel.
Non, moi je travaille en fait sur essayer de faire diverger mes pensées pour pas que ça reste en fait la pensée, les émotions, le comportement, etc. Tout ça, c'est un cercle qui tourne en rond. Et en fait, j'essaie de faire diverger mes pensées sur autre chose. Moi, j'ai une peur bleue, évidemment, de la maladie. J'ai eu l'impression d'avoir une tumeur cérébrale. J'ai fait 72 milliards d'IRM. J'ai eu l'impression d'avoir un cancer de l'estomac. En fait, j'ai une colopathie spastique. Ça m'a rassuré, du coup, d'avoir quand même quelque chose. Et puis derrière, je m'implique énormément dans les hôpitaux. Donc, je suis au contact de malades. Et quelque part, j'ai dû dépasser cette angoisse pour pouvoir me focusser un peu sur les autres. Donc c'est chacun, enfin je crois qu'il n'y a pas de remède miracle. Chacun va travailler un petit peu comme il veut et c'est génial d'avoir des accompagnements comme le docteur Spath ou alors le docteur Schneider.
Merci Grégory Cohen d'être intervenu ce matin. Merci docteur Aurélia Schneider d'être venu. Merci Antoine Spath. Je recommande Tu crois que c'est grave, petit traité à l'usage des hypochondriacs qui veulent s'en sortir, et c'est écrit avec Caroline Michel. Merci au tic et tac du mardi, Eric Libio et Marie-Laure Sunshine. Demain, une séance de yoga et de méditation en direct pour les enfants et toute la famille. N'hésitez pas à nous raconter les bienfaits du yoga chez vos enfants dès maintenant sur l'appli France Inter.